où une femme, dans la relation qu'elle a avec son mari, détermine clairement un droit au plaisir dans le cadre d'une sexualité assumée, bien entendu, dans les limites de ce qui nous est permis, c'est-à-dire le mariage. Acceptation de son corps pour ce qu'il est et de sa vie. Jamais d'idée en islam de refuser la vie de son corps. Il n'y a pas de monachisme en islam, le fait de dire « je ne vais pas me marier ». La recommandation est très grande vers le mariage parce que c'est, selon une tradition prophétique, la moitié de la foi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, la moitié de la foi ? Ça veut dire que par la sexualité, tu combles un manque. Comme tu combles un manque dans ta spiritualité, comme tu combles un manque dans ton intelligence, tu combles un manque dans ton corps. Et le corps de l'autre donne l'équilibre à ton propre corps dans ses besoins, à ton propre cœur dans ses attentes, à tes propres émotions dans leurs élans. C'est ça la vie que chacun d'entre nous vit. Et on cherche l'équilibre par ça. Donc ça, il faut l'admettre. Et accepter sa limite, c'est reconnaître le pouvoir de Dieu. Accepter ses besoins, c'est reconnaître son pouvoir. Accepter de vivre ses besoins, c'est manifester qu'on a compris son ordre, son commandement et son orientation. Ça veut dire effectivement que nous allons vers une conception vraiment globale qui prend tous les aspects de notre dimension humaine et surtout pas l'idée d'une sexualité qu'on sort de l'homme comme ça. C'est comme si c'était un domaine particulier. Est-ce que j'ai le droit ou non de vivre ça avec mon corps? Non, mais attends, ramène la spiritualité, la sexualité, l'intelligence dans la conception globale qu'on a de l'homme parce que tout se tient. Et si tu me commences à me faire des parties, ici j'ai ma sexualité, ici j'ai mon intelligence, ici j'ai ma spiritualité, on risque de devenir quoi? Le dimanche pour mon cœur, le lundi pour mon corps, et puis 4 jours par semaine à l'université pour ma tête. C'est une explosion de notre intimité. Tout ce que je dis sur la sexualité, c'est une perception vraiment globale de toute l'identité humaine. Avec l'innocence comme première étape, la responsabilité comme seconde, la maîtrise comme troisième et l'adoration comme quatrième dans les limites de la dimension de ce mariage. Avec, vous rendez bien compte, cette dimension, le plaisir que tu as à vivre avec ton corps dans le respect de ce que Dieu a voulu est une adoration. Un plaisir qui dit que c'est une adoration. Ce n'est pas rien pour tous ceux qui le vivent dans les limites de ce que Dieu leur permet. Tout ceci a pour conséquence un certain nombre de choses sur le plan de notre vie quotidienne et sur le plan de ce que j'appellerais l'éthique corporelle. Et j'aimerais terminer là-dessus et vous avez la possibilité de poser des questions parce que de tout ce que je dis, il y a des conséquences. Et les juristes musulmans disent bien, voilà la perspective musulmane, mais ça a des conséquences sur notre vie quotidienne. Lesquelles? Premier élément, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour pouvoir vivre de cet effort qui passe de l'innocence à la responsabilité, de la responsabilité à la maîtrise, les hommes doivent se connaître. Et admettre une chose, leur faiblesse dans la maîtrise de leurs instincts et de leurs pulsions. Au premier rang desquels, les hommes au sens, c'est moi l'expression, des mâles. L'expression musulmane sur la conception de la sexualité dit une chose, dans tout ce qui est demandé aux hommes et aux femmes, c'est que l'homme au sens du mâle masculin est plus faible dans la maîtrise de ses instincts que la femme. Ce n'est pas une généralité. Si vous voulez, ce n'est pas une particularité, on ne peut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, parce que les êtres sont plus fragiles que d'autres. Mais dans la dimension qu'il y a une grande fragilité dans l'homme en tant que tel par rapport à sa maîtrise. Et que pour pouvoir vivre la maîtrise, il faut comprendre quelles sont les conséquences. En tout cas, trois. La première des choses, la façon dont on présente son corps à celui dont on veut offrir la maîtrise. Parce qu'on ne peut pas vouloir, dans la sexualité, se présenter comme belle au regard, mais maîtrisée au corps. Il y a à faire très attention à la limite. La beauté, l'expression ne doit pas virer à l'expression d'une séduction qui appelle tous les jours la sexualité et qui dans la tête dirais-je l'interdit. Il y a une contradiction. Et là, ça demande un véritable équilibre de trouver qu'est-ce qu'on montre de son corps pour manifester qu'on exprime la nécessaire volonté de la maîtrise. Parce que quand on montre toutes ses formes, mais comprenez-moi bien, non pas simplement pour la femme, mais c'est la même chose pour l'homme. Parce que là, quand je parle de forme, tout de suite, on pense pas. Les hommes, la même chose. Quand on montre ces formes, le message qui sort, c'est pas « je te propose de te maîtriser ». C'est vrai. Aussi. Mais ça, vous le savez, vous pouvez en sourire, mais la réalité, elle est celle-ci. On ne peut pas envoyer un message et puis supposer qu'on décode quelque chose d'autre. À moins de supposer vraiment que vous avez affaire à une haute spiritualité en face de vous, mais vous savez de quoi ce dont il retourne. Donc il y a, comme conséquence de cela, un travail à faire sur la façon dont on se présente aux autres. Dans les trois recommandations musulmanes, la décence, le fait de couvrir ses formes et le fait de ne pas appeler par la transparence. Ça, c'est une dimension que finalement toutes les spiritualités connaissent, mais si nous voulons vivre dans l'adoration d'une vie sexuelle pour Dieu, il faut se protéger dans le cheminement qui nous y mène. On ne peut pas dire une chose et dire le contraire. Et il y a une nature également qui est claire, qui nous dit, de ce point de vue-là, pour cheminer dans le respect et la protection, et encore deux points, il est vrai que l'islam, par rapport à la sexualité, émet des limites. Émet des limites très très claires en disant que Dieu a voulu un ordre, et cet ordre, c'est l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et que ce qu'on nous propose aujourd'hui dans le monde, en disant, bien puisque c'est naturel et puisque parfois on ne choisit pas, il faut qu'on accepte, comme étant un élément de la nature, l'homme pour l'homme et la femme pour la femme, la dimension de l'homosexualité. Et le message de l'islam de ce point de vue-là est clair. Ça n'est pas permis et ça n'est pas quelque chose qui entre dans la conception générale de l'homme. Est-ce que cela veut dire? Et l'interdiction ici, elle est claire. L'homosexualité n'est pas quelque chose que l'on considère comme admis en islam. Mais est-ce que ça veut dire qu'on reste assis sur une chaise en traitant tous les homosexuels de malades, dégénérés, qu'il faut... Parce qu'il y en a certains qui vont très très loin. Non. Il y a aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de vivre, même dans des sociétés très très musulmanes, un rapport à la question de la sexualité qui est tellement hypocrite que les circonstances poussent des gens à vivre des choses qui sont hors nature. Et que plutôt que de vivre dans l'hypocrisie du silence, il vaut peut-être mieux regarder la réalité en face et de se proposer d'accompagner ceux qui vivent cette homosexualité, non pas comme des malades, mais dans le sens très clair de ce qui est notre religion, mais pas dans le rejet et non pas dans la condamnation totale de l'être. On ne peut ne pas aimer l'acte parce que Dieu nous l'interdit, ça ne veut pas dire qu'on jette les hommes parce qu'ils le vivent, mais plutôt qu'on les accompagne. Je n'ai pas le discours de la culpabilisation et du rejet, et j'ai trop vu de personnes, et parfois je reçois des lettres très très souvent de jeunes musulmans qui me disent: voilà, moi je vis ça, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aimerais tellement me rapprocher de Dieu, mais c'est comme ça, je suis comme ça, comment je fais? Alors, ils ont vu autour d'eux des gens qui, parce qu'ils avaient compris le principe de l'islam, avaient l'attitude du rejet définitif. Et ça, ce n'est pas ce qui nous est enseigné par notre religion. Accompagner jusqu'au bout du possible, faire tout ce qui est en notre possible pour être une oreille, une écoute, et proposer aux gens ce qui nous paraît être la dimension d'une sexualité juste et d'une sexualité qui correspondent à la création. Donc loin de nous l'idée de pour être ouvert, de tout généraliser, de tout accepter, mais loin de l'idée pour nous, parce que nous avons une voix, de commencer à condamner tous les êtres, même si nous savons que des actes de ce type, ou des attitudes de ce type, ou des relations de ce type, n'entrent pas dans le cadre de l'islam. Dernier élément également, j'ai parlé d'une chose qui est très importante dans tout ce qui est la vie sexuelle en tant que telle. Parce qu'on pourrait avoir l'impression, dans ce que je dis, que je ne parle que du rapport. La sexualité ne serait que le rapport sexuel. Alors je termine par vous dire une chose, c'est qu'en islam, toute la question de la sexualité a été traitée de façon extrêmement approfondie. Et que très vite, des femmes, comme des hommes, posaient des questions. Et Aïcha, qui était la femme du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, eh bien, elle disait une chose très intéressante. Elle disait, béni soient les femmes des Ansar, qui étaient les femmes qui vivaient à Médine, que la pudeur n'empêche pas d'approfondir leurs connaissances en termes de religion. Elles sont pudiques, mais elles questionnaient. Et elles questionnaient sur pile et une chose, toutes les questions qui sont relatives au corps. Elles n'avaient pas peur, comme certains sont frileux aujourd'hui. Elle questionnait, surtout elle voulait savoir est-ce qu'on a le droit de faire ci ou de faire ça. Et puis finalement, ce qui est ressorti, ce que les savants ont dit et sur quoi ils ont beaucoup insisté, c'est une dimension que dans la notion, dans la relation sexuelle, il y a une chose qui est interdite effectivement, que l'on ne peut pas faire entre un homme et une femme, et entre n'importe et avec n'importe qui, même pour tout ce qui concerne justement les relations homosexuelles, c'est la sodomie. ceci, de toutes les écoles, il y a un but. On ne peut pas. Par contre, ce qu'on va trouver dans tous les textes de droit, et dans tous les textes dès le 10e, 12e, et en particulier au 14e siècle, des textes qui vous parlent de tout ce qui est la relation d'un corps avec un corps, des préliminaires possibles, où c'est possible très largement de vivre de ces préliminaires, de se donner ce plaisir comme un don que l'on donne à l'autre, comme un cadeau que l'on fait à l'autre devant Dieu, une dimension d'une sexualité acceptée, des préliminaires, de la caresse, de tout ce qui est permis. Vous voyez des savants qui n'ont aucune crainte, qui disent ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça tu peux le dire, et qui offre une vision de la vie du corps pour le musulman et la musulmane extrêmement ample, en disant là tu ne peux pas, ça on le sait, en dehors du cadre du mariage tu ne peux pas. Apprends à partir de ton innocence à être responsable, à partir de ta responsabilité, à savoir te maîtriser, et dans le cadre de ton mariage, à vivre et à t'épanouir. Pas simplement toi dans ton plaisir égoïste, mais à l'écoute du plaisir de l'autre, de son cheminement à lui, de son cheminement à elle, et en ayant du plaisir à Dieu dans les limites du mariage, vous adorez Dieu, vous le respectez, mieux que ça encore, vous vous en approchez. Merci.
Merci beaucoup. Nous n'avons que quelques minutes. Je propose qu'on prenne 4 ou 5 questions. Et puis, je vous propose d'écrire à Tariq Ramadan si vous avez d'autres questions, parce qu'il semble qu'il est, bien sûr, il est toujours disponible. Et je vais, il va falloir que je tranche, alors j'espère que vous acceptez. Allez-y.
Je répète la question pour la salle à côté. Qu'est-ce que je pense de la pornographie? J'espère la même chose que vous. C'est-à-dire, effectivement, vous savez, beaucoup de femmes se sont battues pour la libération de la femme, se sont battues pour des droits, et à un moment donné, quand on a vu ce que ça a pu donner à partir de 1968 dans les sociétés occidentales, ont été elles-mêmes effrayées. Ce que nous sommes en train de faire et de proposer par rapport au corps de la femme aujourd'hui, de cette espèce de mythe, tout ce qui est, pour le musulman, la mise en public d'un événement dont la noblesse est de se faire en privé, est une déficience et une erreur grave. Même dans ce qu'on peut, parce que certains vous disent, oui d'accord pour la pornographie, mais alors l'érotisme, pareil. Tout ce qui est dans la noblesse et de se faire en privé entre un homme et une femme, dans l'amour qu'ils ont en Dieu pour l'adoration, quand cela se fait en public, d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas être quelque chose qui rencontre de la dignité. La pornographie, et là il faudrait peut-être que toutes les femmes de ce point de vue-là, et même également les musulmanes se fassent entendre de ce point de vue, parce qu'on dit qu'on le refuse, mais il y a plus que ça. Il y a aujourd'hui un combat de la dignité des femmes, et des hommes d'ailleurs, mais essentiellement de ce qu'on est en train de produire du corps de la femme dans les sociétés occidentales, dans ses excès, parce que toute la société occidentale n'est pas comme ça, mais dans ses excès, il faut être très très clair, il faut s'y opposer. C'est une humiliation totale du corps de la femme, du corps de l'homme, et de tout ce que nous valons. C'est la bestialité mise en image pour faire appel à nos instincts les plus bas. Mais plutôt que de se dire en public comme ceci, il faut s'y opposer personnellement, que chacun d'entre nous règle sa maîtrise par rapport à ceci, et ça commence presque également par tout ce qui peut nous mener à accepter des choses dans la normalité. C'est une maîtrise personnelle qu'il faut alimenter pour soi et devant les autres. Je crois que c'est comme ça qu'on se respecte et qu'on respecte les femmes et les hommes. À partir du moment où effectivement la contraception a été admise en islam sur le point de la contraception naturelle, le principe, c'est toujours de dire, un homme et une femme ont une relation sexuelle dans le cadre du mariage avec l'idée de constituer une famille. Donc c'est plutôt la propension à le vivre jusqu'au bout et de le réaliser jusqu'au bout pour avoir des enfants. Mais des savants, et la majorité des savants musulmans sur la question ont mis en évidence une chose, puisque la contraception naturelle a été acceptée et qu'elle était bien sûr la promotion du plaisir, la contraception et toutes les contraceptions peuvent être admises quand il s'agit de conditions qui sont liées aussi à des valeurs islamiques, par exemple. donne un exemple. Si on se dit, nous on est deux, on veut vivre qu'à deux, on veut notre argent, notre petite maison, notre voiture, pas d'enfants, surtout pas parce qu'ils dérangeraient notre équilibre, non. Ça c'est une contraception fondée sur l'égoïsme, on n'en veut pas. Par contre, si on a des enfants qu'à un moment donné on se dit, je ne peux pas subvenir à leurs besoins, oui, je ne peux pas subvenir à leur éducation, je suis arrivé au bout. Si par exemple la maman est fatiguée, qu'il faut elle se passer les naissances, tout ceci est permis quand l'intention, elle n'est pas l'égoïsme de protéger son avoir, mais l'équilibre pour la famille, tout ceci est possible. Toutes les moyens de contraception sont possibles, à une seule exception, tous les moyens contraceptifs qui peuvent avoir un effet irréversible ou porter atteinte à la santé de la mère, par exemple, doivent être évités. Je pense par exemple aux stérilisations, ça ce n'est pas bon. Je pense également définitive, je pense également à tout ce qui pourrait concerner, à partir d'un certain âge, le fait de prendre la pilule. Si le médecin, comme j'ai pu l'entendre, le médecin vous dit, ça a un effet négatif sur votre santé, il faut arrêter, il faut trouver un autre moyen de santé. Tout ce qui a une influence négative sur la santé doit être évité, mais le moyen contraceptif, comme équilibre d'une intelligence et d'une harmonie, c'est une bonne chose. Mais protection des égoïsmes, ce n'est pas défendu, pas permis.
Dernière question.
Ça, c'est une question intéressante. Clairement, sur la base des références, pour ce qui concerne l'homosexualité, le fait est clair sur la base de Raoum l'autre. L'autre, c'est le peuple de... Attendez, je vais essayer de répondre dans l'ordre, parce que sinon... Ouais. Mais simplement, parce que c'est une question importante, le Coran est clair par rapport au peuple de Lot, qui était effectivement un peuple qui pratiquait l'homosexualité. Le texte là est sans équivoque. Et il l'est d'ailleurs pour toutes les traditions. Là, on se réunit, là, il n'y a pas de discussion sur cet élément-là, et tous les savants sont d'accord. Donc, le Coran, ici, le mentionne. Oui. Par rapport à la question de la sodomie, ce qui est implicitement noté dans les pratiques qui sont notées dans le sans que ce soit dit dans le Coran, mais implicitement, c'est ce à quoi on se réfère. Mais on va passer là dans les traditions du prophète, et c'est tout simple pour savoir qu'en fait, dans ces traditions-là, nous trouvons des choses très très claires sur la sodomie, et qui est clair, et là-dessus, des textes sans équivoque, après on dira, qui interdit cette pratique-là au sens absolu et strict. Donc, et par rapport à le... Oui, alors je vais peut-être... On est un peu court au niveau du temps,
très court.
Mais les raisons qui sont invoquées, et par rapport à la sexualité, par rapport à la sodomie, c'est effectivement ce que ça représente, que cet acte au niveau de la sexualité elle-même, c'est pas du tout. Tout ce qui est lié au plaisir nous est permis, tout ce qui est lié à l'acte sexuel nous est permis, mais cet acte-là rend l'homme et le pousse vers quelque chose qui s'apparente à un acte de bestialité. Et là, il faut l'éviter. Maintenant, les explications plus avant, je ne peux pas vous les donner maintenant, mais simplement pour vous dire que pour nous, ce qu'on doit considérer, l'interdiction est stricte. Et là-dessus, tous les musulmans doivent l'entendre et tout. Je veux dire, elle est stricte également dans toutes les autres traditions. Maintenant, quelle attitude nous avons par rapport à une attitude, par rapport à quelque chose qui est strictement interdit et qu'on voit des gens faire quand même. Dire à une personne, je ne peux pas accepter ce que tu fais, ne veut pas dire que vous refusiez qui il est ou que vous rejetiez qui il est. Et qu'à partir d'un certain moment, vous verrez énormément de gens, et j'en connais beaucoup, qui eux-mêmes souffrent de ce qu'ils vivent. Et qui se posent des questions, et qui même demandent à ce qu'on les accompagne. Eh bien, il faut les accompagner. Dire à ceux qui font ceci sans conscience, que de la conscience devant Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et dire à ceux qui le font en conscience, et qui peuvent en souffrir, et qui aimeraient pouvoir retrouver et vivre quelque chose qui est équilibré, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et en être tristes. Mais qu'ils sachent, où qu'ils soient, et quelle que soit l'évolution qu'ils sont en train de vivre, c'est qu'ils ont des frères, c'est qu'ils ont des sœurs, qui vont essayer de les accompagner à revenir à quelque chose qui est pour nous licite et à délaisser ceci. Quoi que tu fasses, je ne l'accepte pas, certes, mais je t'accompagnerai pour faire quelque chose que j'accepte, non pas simplement moi, mais que Dieu aime et qu'il nous demande de vivre dans notre quotidien. Voilà, je crois, le message, c'est strictement interdit, mais il faut en permanence accompagner les êtres qui en vivent pour accompagner leurs souffrances et ne pas devenir les juges des êtres, même si nous sommes des fois les juges des actes. Voilà, je vous remercie infiniment, bonne continuation à vous et merci pour ce chaleureux accueil ici à l'île Maurice. On part dans 2 jours avec toute la famille et ceux qui nous ont accueillis. Il y a des personnes que je ne reverrai pas, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants. J'aimerais quand même vous dire, vraiment, du fond du cœur, pour cet accueil, pour cette présence, pour cette écoute et pour ces sourires, merci infiniment et que Dieu vous garde, vous protège et vous aide.